Aujourd'hui, contrairement à mercredi dernier ou celui d'avant mercredi dernier, je vais débuter la lecture pour continuer notre série d'études bibliques sur le royaume de Dieu. La lecture va commencer ce soir au verset 8. Pour raccourcir un peu les choses, parce que j'aimerais pouvoir terminer avec cette séquence, ou du moins cette péricope, qui est Matthieu chapitre 5, verset 1er à 12. J'aimerais commencer la lecture au verset 8 pour m'arrêter au verset 12, histoire de vous remettre en contexte. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et le verset 12, de dire ceci, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dès le Seigneur, bénir sa parole, frères et sœurs. Nous continuons notre série d'enseignements sur le royaume de Dieu dans le Nouveau Testament. Et depuis un certain temps, nous abordons l'éthique du royaume ou alors la philosophie du royaume. Nous abordons depuis un certain temps le regard que Jésus pose sur les citoyens du royaume dans l'introduction de l'éthique du royaume. L'introduction de l'éthique du royaume, qui est le sermon et qui sont les béatitudes du Seigneur, localisées dans Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12, mais plus particulièrement verset 3 à 12. C'est là que Jésus commence à dévoiler, eh bien, les traits de caractère des citoyens du royaume. Nous avons vu ensemble, déjà, dans ces sessions d'études écoulées, que Jésus dit que les citoyens du royaume, ce sont des pauvres en esprit. Ils sont des pauvres en esprit au verset 3, c'est la toute première béatitude. Ils sont des pauvres en esprit, c'est-à-dire que les citoyens du royaume de Dieu, le peuple du royaume de Dieu, les enfants du royaume, donc, le royaume de lumière, dans le sens où ils reconnaissent le vide et le besoin en eux, et cela les amène à s'approcher de Dieu. Cette prise de conscience, quand je dis cela, cette prise de conscience les amène, cette reconnaissance les amène à s'approcher de Dieu dans la foi au Christ, dans la foi au Messie, pour obtenir ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire les ressources nécessaires pour accomplir en eux-mêmes ce qu'ils ne sont pas capables d'accomplir en eux-mêmes. C'est en cela, entre autres, mais plus particulièrement, que les citoyens du royaume sont des pauvres en esprit. Et Jésus dit de ces gens-là qu'ils sont heureux. C'est un constat que Jésus fait quant à leur trait de caractère. Ces gens-là ne se confient pas en leurs propres capacités. Ils sont conscients de leur incapacité à plaire à Dieu. Ils sont conscients de leur incapacité, eh bien, à se régénérer eux-mêmes, à accomplir la volonté de Dieu par eux-mêmes. Ils se sont remis à Dieu pour œuvrer en eux. Ils acceptent le roi du royaume dans leur cœur, dans leur vie, pour obtenir la transformation du cœur nécessaire. Jésus dit aussi des citoyens du royaume qu'ils sont des affligés. J'ai expliqué que l'affliction ici, c'est l'affliction du péché. L'affliction, eh bien, que produit la repentance selon Dieu. Ils sont affligés de leur péché et de leur éloignement depuis le jardin d'Éden, eh bien, par rapport au Dieu saint. Jésus dit que ces gens-là sont heureux parce que ils ont aussi appris à être débonnaires. Ils ont appris la miséricorde. Aujourd'hui, au verset 8, Jésus poursuit le développement de son regard sur les citoyens du royaume. Nous venons de le voir au verset 8 pour dire que ce sont des gens au cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Au verset 9, Jésus dit des citoyens du royaume que ce sont des gens qui procurent la paix. Et au verset 10, Jésus dit des citoyens du royaume qu'ils sont des gens persécutés pour la justice. Si nous commençons avec le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, mais dans tous les cas, ils sont heureux. Ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, ils sont heureux, dit Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le mot cœur, tel que Jésus l'utilise ici pour parler des citoyens du royaume, c'est un mot que la Bible utilise couramment, frères et sœurs, pour parler de l'intériorité de l'homme, pour parler de l'intérieur de l'être humain. Le mot cœur, la Bible parle souvent de l'intérieur, de l'homme intérieur, de l'intérieur de l'homme, en utilisant le mot cœur, en parlant de cœur. Le cœur, c'est le siège des motifs et des attitudes qui sont dans l'homme. Le cœur, c'est le centre des motifs et des attitudes qui sont dans l'homme. Le cœur, souvent dans la Bible, représente la centralité de l'homme, ou bien le centre de la personnalité humaine. Le cœur, c'est comme un tour de contrôle. Le cœur est le centre de contrôle de la pensée et de la volonté humaine. Le cœur est le centre des émotions de l'homme. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ou alors, heureux ceux qui sont purs de cœur. Ou alors, heureux ceux qui sont purs dans leur intériorité, dit Jésus. Un des endroits, en fait, pas un des endroits, certains de ces endroits-là où la Bible parle du cœur de l'homme en ce sens, C'est par exemple Proverbe chapitre 4, le verset 23, quand le sage Salomon dit: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, il fait référence à nos émotions, à nos volontés, à nos pensées, à nos sentiments. Il fait référence à nos motifs, à nos attitudes, etc. Et c'est le cœur de l'homme que Dieu a vu quand la parole de Dieu dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, Genèse chapitre 6, le verset 5, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et vous en connaissez la suite. David fait référence au cœur de l'homme dans le même sens, au psaume, entre autres, dans le psaume 51, le verset 8, quand il dit dans sa confession: Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ainsi, au verset 12, nous allons voir le psalmiste qui dit: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voyez-vous, crée en moi, à l'intérieur de moi. Et le deuxième membre de la phrase dit: renouvelle en moi, à l'intérieur de moi, un esprit bien disposé. Toujours au psaume 51, cette fois le verset 12. Et le serviteur Asaph, au psaume 73, le verset 1er, dit: Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et nous comprenons que le Fils de Dieu, il a en tête ces occurrences concernant le cœur ou la pureté du cœur, quand il dit: Heureux ceux qui ont le cœur pur. Voyez-vous? Donc, nous sommes vraiment avec le cœur dans ce sens ici. Psaume 73, le verset 1er. Les pensées et les mauvaises œuvres commencent dans le cœur et l'esprit. Le cœur et l'esprit. Quand Jésus dit en Matthieu chapitre 15, le verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Je crois avoir lu, avoir considéré ce passage avec vous dimanche dernier au cours de la proclamation des oracles sacrés. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme au regard divin. Alors, voyez-vous comment c'est important lorsque le royaume de Dieu vient en nous, agit en nous, demeure en nous, habite en nous, fait sa demeure en nous. C'est de ça. Voyez-vous toute la responsabilité que porte le cœur humain, le cœur de l'homme. Alors, si le cœur ne change pas, plus rien ne va dans le monde. Si le cœur d'un homme ne change pas, plus rien ne va. Si le cœur d'une femme ne change pas, plus rien ne va. Parce que le cœur est central. Les adultères viennent du cœur, les meurtres viennent du cœur, les débauches viennent du cœur. C'est-à-dire que avant que l'acte soit commis, l'acte est déjà pensé, conçu à l'intérieur de l'être humain, c'est-à-dire dans son cœur, au sens où je l'ai considéré avec les tout à l'heure. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours expliqué, depuis qu'on a commencé cette série d'études, de prier pour un changement de cœur autour de nous. Prier pour un renouvellement du cœur. Prier pour que les cœurs soient ramollis. Prier pour que les cœurs soient sanctifiés, soient purifiés, soit recréé, soit renouvelé, soit régénéré, tout par-delà. Incidemment, frères et sœurs, un des signes distinctifs d'un cœur pur, c'est l'ignorance. D'un cœur impur, plutôt, c'est l'ignorance. Un cœur impur, eh bien, donne l'ignorance. Quand le royaume de Dieu ne pénètre pas un cœur, même si une personne a 3, 4, 5 doctorats, la personne est ignorante, particulièrement quant aux choses de Dieu, quant aux choses éternelles, quant aux choses spirituelles, quant aux choses sacrées. Et en disant cela, nous ne disons pas pour dire que ceux dont le cœur n'est pas régénéré, eh bien, ce sont des pas bons. C'est plutôt pour dire combien c'est important pour nous d'œuvrer à la propagation du royaume de Dieu, d'évangéliser pour que, eh bien, les hommes puissent passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. C'est tout simplement ce que cela veut dire. Et aussi pour voir quelle est la grâce que Dieu nous a faite à vous et à moi et à toutes celles et ceux qui sont dans son royaume, qui sont au cœur de son royaume et au cœur desquels se trouve le royaume de Dieu. Quelle grâce Dieu nous a faite. Le péché obscurcit la vérité, donc le cœur irrégénéré, non régénéré, eh bien, est ignorant des choses de Dieu. Un autre signe d'un cœur qui n'est pas pur, c'est l'égocentrisme. J'ai entendu un serviteur qui priait tout à l'heure qui a mentionné l'égocentrisme. Apocalypse 3, le verset 17, et pour la première chose, le cœur impur est ignorant, eh bien, c'est Jean chapitre 3, verset 19 à 20. Heureux. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes heureux. Voilà pourquoi les citoyens du royaume sont heureux, parce que Dieu leur a fait la grâce de régénérer leur cœur, de purifier, de sanctifier leur cœur. Un autre trait distinctif d'un cœur qui n'est pas pur, c'est les plaisirs du péché. Un cœur qui n'est pas pur tend toujours vers les plaisirs du péché, ne peut pas se passer des plaisirs du péché. Michée chapitre 3, verset 2. Ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, les enfants du royaume de Dieu, frères et sœurs, ce sont des gens qui échangent toutes ces choses, à savoir l'ignorance, l'égocentrisme, les plaisirs du péché et toute autre chose semblable pour l'intégrité et la pureté devant Dieu. En renonçant à nous-mêmes pour accepter le royaume de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, eh bien, nous renonçons par le fait même à toutes ces choses qu'amènent, qu'apportent, qu'engendrent un cœur impur. Voilà la grâce que Dieu nous a faite, frères et sœurs. Ceux qui sont des citoyens du royaume, au regard divin, à l'évaluation du Christ, au constat du Christ, du point de vue du Christ, frères et sœurs, eh bien, ils ont des motifs purs. Les enfants du royaume ont des motifs purs. Ils ont des attitudes pures. Ce sont des gens résolus. Ce sont des gens décidés. Ce ne sont pas des gens, eh bien, qui sont vacillants. Voilà. Ils ne sont pas vacillants. Ils sont fermes dans la foi. Ils sont fermes dans leurs convictions. Ils sont fermes dans leur attachement à Dieu et à sa parole. Ils sont fermes dans leur dans l'exécution, eh bien, du mandat que Dieu leur confie, à savoir d'être le sel de la terre et la lumière du monde, frères et sœurs. Les enfants du royaume, les gens au cœur pur, ce sont des gens consacrés. En un mot, ce sont des gens qui ont de l'intégrité spirituelle. L'intégrité ou l'intégrité spirituelle, ce que cela veut dire, pour faire simple, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas mélangés. Non, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est l'Église, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est l'adoration. Une chose et son contraire en même temps, c'est impossible. Mais remarquez que c'est Dieu qui a fait ça pour nous, hein. C'est Dieu qui a fait ça en nous. Vous et moi, nous ne sommes pas capables, hein, de faire cela par nous-mêmes. C'est Dieu qui l'a accompli en nous. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont à l'extérieur du royaume. C'est le royaume qui est en nous qui fait que nous sommes comme ça, Dieu merci, par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours continuer à vivre dans l'adoration, dans l'action de grâce, eu égard à cette transformation de cœur que Dieu a opérée en nous, frères et sœurs, mais bien-aimés. Les enfants du royaume ont un cœur pur, même s'il leur arrive parfois accidentellement de manquer le but. Je dis manquer le but pour parler d'une façon théologique, mais le vrai mot, même s'il leur arrive parfois de pécher accidentellement. Nous ne sommes pas encore dans le paradis de Dieu où le péché ne sera plus. Il nous arrive accidentellement de pécher. Mais ce n'est pas ça qui fait en sorte que notre cœur n'est pas pur. Dieu l'a accompli. Il n'y a pas de raison de douter de l'accomplissement de cette œuvre que Dieu a accomplie en nous, loin de là. Non, aucun rapport. Tu n'es pas sans péché, je ne suis pas sans péché. Bien sûr, vous et moi, nous n'allons pas utiliser ça pour un prétexte pour pécher. Nous allons pleurer, nous allons gémir, nous allons jeûner pour nous devant Dieu quand il nous arrive accidentellement de pécher. Ce que cela veut dire, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui utilisent ça comme un prétexte, nous sommes beaucoup dans celle-là, je ne suis pas encore dans le ciel, alors que m'importe si je pêche. Ce n'est pas ce que Pasteur Sergio est en train de dire. Et je suis en train de dire que s'il vous arrive accidentellement de pécher, ne croyez pas que votre cœur cesse d'être pur pour cela. Parce que Dieu l'a fait une fois pour toutes. Il vous a sanctifié, il vous a purifié une fois pour toutes. Et la lutte continue, le combat continue. C'est la raison pour laquelle il nous appelle à rechercher la pureté, jour après jour, la sanctification, la sainteté, à gémir dans la prière, à adorer, à lire la parole, pour mettre le plus de moyens possibles qu'il nous donne de nos côtés pour réduire au minimum les accidents de péché. Mais qu'à cela ne tienne, il nous a purifiés une fois pour toutes, pour le temps et pour l'éternité. En tant que Jean, ayant par sa grâce, par la conviction du Saint-Esprit de Dieu, ayant reçu le royaume de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, frères et sœurs, Saint Paul dira incidemment, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. L'apôtre Paul, oui. Voyez-vous comment la lutte est grande, est réelle, est énorme. Mais attention, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, cette pureté que nous avons, cette pureté de cœur, qui fait en sorte que le Christ dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, cette pureté de cœur ne vient pas de nous, ne l'oublie pas. La pureté de notre cœur ou la purification de notre cœur, on n'est pas né avec. Et il ne suffit pas de venir à l'église pour l'avoir. Ça vient de la régénération. Ça vient de la circoncision de cœur, la circoncision spirituelle que Dieu seul est capable d'opérer dans les cœurs de ceux qui acceptent le roi du royaume. Avec le royaume dans leur cœur, en Jésus-Christ, notre Rédempteur, frères et sœurs. La foi, par la grâce de Dieu, c'est ce qui procure un cœur pur, frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle en théologie la pureté-impureté. La pureté-imputée. Ta pureté de cœur, t'a été imputée. Imputée signifie que Dieu te l'a donnée. Dieu nous impute sa justice. J'ai déjà parlé de l'imputation de la justice dans l'Église. Dieu, en nous imputant sa justice, je vous ai déjà dit que vous êtes juste, vous êtes saint. Bien, en nous imputant sa justice, Dieu nous impute par le fait même sa pureté. La pureté est divine. La pureté vient de Dieu. Dieu est le dispensateur de la pureté parce que lui seul est pur. Le fait est que, frères et sœurs, quand Dieu nous impute sa justice, eh bien, nous avons part à sa pureté également. En parlant de pureté, de justice, nous parlons de ces différents aspects du salut que Dieu nous donne, de la vie éternelle que Dieu nous donne, frères et sœurs. Dès notre entrée dans le royaume de Dieu, Dieu nous voit tel qu'il voit son Fils, à savoir juste et sans tâche. Amen. Quelle bonne nouvelle. Ceux qui reçoivent cette pureté, ce sont ceux qui ont reconnu leur pauvreté spirituelle. C'est en ayant reconnu notre pauvreté spirituelle, notre incapacité à nous purifier, à purifier nos cœurs, à purifier nos mains, eh bien, qu'on a pu recevoir cette pureté. C'est en étant pauvre en esprit qu'on a pu bénéficier de cette grâce, frères et sœurs. Pour obtenir cette pureté, il a fallu réaliser que nous étions incapables de vivre un seul instant, une seule seconde de pureté sans la direction, l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie et de dire, Seigneur, viens à mon secours pour que je puisse y parvenir, pour que je puisse y arriver. En l'ayant dit sincèrement, Dieu a entendu notre appel au secours, notre cri de détresse. Il a fait son entrée dans notre âme. Et nous voilà aujourd'hui, des gens au cœur pur. Ce n'est pas une blague que je vous raconte. Vous avez été sanctifiés, vous avez été lavés, vous avez été purifiés dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis né de mon péché? Proverbe chapitre 20, verset 9. Je répète, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis né de mon péché? C'est comme quand j'ai posé la question dans le psaume 24, il y a deux dimanches ou presque, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Je suis en train de dire que notre cœur a été purifié, mais parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons que Jésus l'a fait. Notre purification commence par la reconnaissance de notre faiblesse. Donc, n'oubliez pas cela. J'essaie de résumer, mais je vais avancer encore. Par la purification de notre faiblesse, cette faiblesse qui nous a poussés à la conversion, à rechercher la force de notre Dieu. N'oubliez pas cela. Et j'avance. N'oubliez pas, je viens de parler de la pureté imputée. Le pasteur dit, au Sergo dit, quand Jésus dit au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, le frère Sergo dit que Jésus parle des habitants du royaume, du peuple du royaume, des enfants du royaume. Il les voit comme cela, il s'adresse à ses disciples. N'oubliez pas cette théologie que j'avais dégagée dans l'Assemblée. C'est un constat que Jésus fait. Il sait qu'est-ce qu'il a fait. C'est lui qui l'a fait. Il est capable de le faire. Bien sûr, il n'était pas mort encore. Il n'était pas ressuscité encore. Mais il savait qu'est-ce qui s'en viendrait pour ceux qui accepteraient le royaume dans leur cœur. N'oubliez pas cela. Maintenant, avec la pureté imputée, Dieu accorde la pureté objective. Dans la nouvelle nature du croyant. Il y a la pureté imputée et la pureté objective. La pureté réalisée. Dans la nouvelle nature du croyant. Romains 6, verset 4 à 5. Romains 8, verset 5 à 11. Colossiens 3, verset 9 à 10. 2 Pierre 1, le verset 3. J'indique ces versets-là, vous les lirez à la maison. La pureté objective, la pureté réelle et la pureté imputée. Ces deux formes de pureté nous appellent à la pureté pratique. La pureté pratique. Vous avez l'habitude de parler de la sanctification pratique. C'est la même chose. La pureté qui exige un effort de recherche de la pureté, un effort de vie dans la pureté. C'est-à-dire notre collaboration avec Dieu pour marcher dans de progrès en progrès. Cela ne veut pas dire que même à ça, c'est nous qui allons le faire. Non, toujours est-il même dans le salut, ce n'est pas notre œuvre. Au départ, ça n'a pas été notre œuvre. Et dans le salut, ce n'est pas notre œuvre. Nous allons simplement être des instruments entre les mains du Seigneur pour qu'il continue l'œuvre de pureté qu'il a commencé en nous. En nous soumettant à son esprit, en marchant selon le Saint-Esprit, en restant dans la parole, en vivant dans la prière, en vivant dans la communion fraternelle. Bref, en prenant tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour ce faire. Nous allons collaborer avec Dieu, mais l'œuvre de purification demeurera éternellement l'œuvre de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul appelle travailler à votre salut. Vous comprenez bien la théologie aujourd'hui. Ou du moins depuis qu'on a commencé. Dieu l'a fait. Restons dans ce que Dieu a fait. Recherchons ce que Dieu a fait. Tendons vers ce que Dieu a déjà fait. N'oubliez pas la journée où l'Église comprend cet équilibre. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Vous voulez quelques versets là-dessus? En voici un, peut-être deux, maximum. Ayant donc, 2 Corinthiens 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, vous lirez le contexte à la maison pour voir de quelles promesses il est question. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, voyez-vous, le pasteur ne vous a pas dit, c'est la Bible. Purifions-nous de toute souillure. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et à Saint-Pierre emboîtera le pas à Saint-Paul en disant dans 1 Pierre 1er, versets 14 à 16, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez avant la purification de votre cœur. » C'est-à-dire, lui, il dit autrefois, mais j'essaie d'expliquer. Autrefois, c'est avant que votre cœur ait été purifié, avant votre régénération, votre renouvellement spirituel. Autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, votre serviteur vient de vous dire que une des caractéristiques d'un cœur irrégénéré, non régénéré ou bien impur, eh bien, c'est l'ignorance. Mais l'Écriture le dit ici. Ça ne venait pas de moi quand je vous le disais tout à l'heure. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Qu'est-ce qui n'est pas? Voyez-vous? Dieu l'a fait. Il nous appelle à rechercher ce qu'il a fait. Nous aimons tellement ce qu'il a fait et nous recherchons jour après jour dans nos luttes quotidiennes à nous conformer à ce qu'il a fait pour qu'il le fasse davantage. Gloire à Dieu. Voilà l'équilibre qu'il faut rechercher, frères et sœurs, dans la vie chrétienne conséquente. Certainement, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, nous aurons des tentations. Nous aurons des tentations. Qui qu'il soit, quel que soit son nom, qu'il soit bishop, qu'il soit évêque, qu'il soit missionnaire, qu'il soit pasteur, qu'il soit, vous connaissez les titres. Nous verrons des tentations. Mais vous savez, notre Dieu préparera toujours un moyen d'en sortir. Nous pécherons accidentellement. Mais Dieu merci, Dieu nous rassure à l'effet que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, voilà le terme. Aujourd'hui, c'est le thème central de l'étude, c'est la purification, ou alors la pureté, pour nous purifier de toute iniquité. Je crois que nous avons tout à gagner en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du royaume. Voyez-vous ce qui arrive là? Votre serviteur ne vous a-t-il pas dit tout à l'heure que notre purification est une œuvre éternelle? Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière? Eh bien, Satan est pris à son propre piège. Et voilà pourquoi ceux qui n'ont pas accepté le royaume de Dieu dans leur vie, ils sont les plus malheureux. Voilà pourquoi nous sommes des gens bienheureux. Le Christ n'arrête pas de dire heureux, 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 heureux. Regardez bien. Raisonnons un peu un moment à l'oratoire. J'ai dit que Dieu nous a donné à vous et à moi, objectivement, matériellement, un cœur nouveau. Croyez-moi, croyez Dieu, sur parole. Votre cœur est nouveau, frère. Votre cœur est nouveau, sœur. Croyez-moi. OK? Même s'il vous arrive de pécher accidentellement, votre cœur demeure un cœur nouveau. Dieu vous a donné un cœur nouveau. Ce n'est pas dans le ciel qu'il va te donner un cœur nouveau. Tu as déjà un cœur nouveau. Croyez Dieu sur parole, premièrement. Mais avec un cœur nouveau, nous sommes dans un monde corrompu. Avec notre cœur nouveau, nous n'avons pas encore quitté le monde corrompu autour de nous. Nous sommes encore dans cette enveloppe charnelle. Propre nous-mêmes est un problème pour nous-mêmes. Puisque nous ne sommes pas encore même dans le royaume millénaire de notre Dieu. Donc, nous sommes en lutte au péché. Mais regardez ce que le texte dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que les péchés accidentels qui réussiront une fois de temps en temps à nous souiller, eh bien, Dieu nous purifiera encore quotidiennement chaque fois que c'est nécessaire, en plus, eh bien, de l'œuvre de purification de départ, de base, originale plutôt, qu'il a déjà commencé dans notre vie. Satan est pris à son propre piège. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit demeurer dans la parole de Dieu pour comprendre la volonté du Seigneur sur ces choses-là, pour ne pas se mélanger. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le Christ a dit dans Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs. » Voyez-vous la doctrine? « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Voyez-vous votre privilège? Tu peux acheter un royaume, tu peux acheter un villa, tu peux être président des États-Unis, tu peux être premier ministre du Canada, tu peux être le pasteur de la plus grande église de l'Amérique du Nord ou je ne sais plus quoi d'autre. Mais tu ne peux pas t'acheter un cœur nouveau. Tu ne peux pas purifier ton cœur. Tu ne peux pas régénérer ta vie. Tu ne peux pas renouveler ta vie. Un seul est capable de le faire, c'est Dieu. Et Dieu l'a fait pour vous. Quelle merveille, il vint me sauver. Quand de sa croix, je me suis chargé. Frères et sœurs, c'est un privilège, c'est une grâce pour moi de savoir ce soir que ce que mes parents n'ont pas été capables de faire malgré tout l'amour qu'ils me vouaient de leur vivant, Dieu a été capable de le réaliser dans ma vie. Je connais le bien et le mal aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, je ne suis plus ignorant. Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a nettoyé les yeux, il a fait tomber les écailles de mes yeux. Je ne suis plus égoïste. Je demeure un pécheur, mais je ne suis plus égoïste. Pas parce que je suis bon, mais parce que Dieu a changé mon cœur. Il m'a enlevé le cœur de pierre, il m'a donné un cœur de chair. Selon ce qu'il a promis à son peuple, c'est une bénédiction, frères et sœurs. J'aimerais vous dire ceci, pour demeurer dans ce que Dieu a fait, dans le don du cœur nouveau qu'il t'a donné, dans la purification de ton cœur qu'il a faite, Pour demeurer, je l'ai dit oui, mais je vais juste résumer avant que je termine cette béatitude-là. Vous et moi, nous avons besoin d'être soumis, contrôlés par le Saint-Esprit de Dieu. Prions que Dieu nous fasse la grâce de nous laisser contrôler par son Saint-Esprit. Ça existe, un chrétien contrôlé par l'Esprit, une église contrôlée par l'Esprit, un ouvrier contrôlé par l'Esprit, une famille contrôlée par l'Esprit, un mari contrôlé par l'Esprit, une épouse contrôlée par l'Esprit, un pasteur contrôlé par l'Esprit, un fidèle, une fidèle contrôlée par l'Esprit. Ça existe. Prions que Dieu nous en fasse la grâce parce que c'est la condition de la victoire. C'est la condition pour réduire au minimum l'impureté dans notre vie. Frères et sœurs, mes bien-aimés, marchez dans la voie du Seigneur. Marchez dans la volonté du Seigneur. Dieu nous appelle à progresser en pureté. Quand tu pries, je te suggère de dire, Seigneur, fais-moi la grâce de progresser dans la pureté. Et fais-moi la grâce de demeurer dans la pureté. On y demeure, puis on progresse. Ça existe. Ça, c'est notre partie de la chose. Pas en termes de c'est nous qui allons le faire, mais en termes de choses à rechercher. C'est à nous de le désirer. Désirons la pureté. Tendons vers la pureté. Prions pour la pureté. Ne prenons rien pour acquis. Que Dieu l'a fait pour nous nous asseyons sur nos lauriers. Non, Dieu nous appelle à combattre. Pour grandir là-dedans, dans ce qu'il a fait, pour demeurer dans ce qu'il a fait, pour persévérer dans ce qu'il a fait, frères et sœurs. Quand ça se fait comme ça, nous sommes de plus en plus blindés pour faire face aux épreuves de la vie, aux tourments, aux tentations, aux chicanes, aux désaccords, aux conflits. Il y en aura, et nous pourrons mieux y faire face. Nous pourrons avoir plus un réflexe de réagir avec la parole. Que Dieu en main. Frères et sœurs, mes bien-aimés, je sais que vous le faites déjà, mais c'est ma prière pour vous. Marchez selon l'esprit dit Saint-Paul et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce que tout ce que je viens de vous dire, c'est l'Écriture qui me le dit pour le dire. Moi, je parle pas de mon opinion. C'est la dernière chose que je ferai en chair, de parler de mes opinions. À chaque fois que je vous le dis, puis je donne un passage de l'Écriture. Marchez selon l'esprit. Ah. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, partant de ce texte sacré, le pasteur dit, pour demeurer et progresser dans la pureté, il est essentiel d'être contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu. C'est là, c'est la recette, c'est la stratégie que Dieu nous donne, frères et sœurs. Je dis toujours à mes élèves, moi, je suis enseignant, je vous donne des stratégies, mais c'est à vous d'utiliser les stratégies pour apprendre. Mais c'est la même chose. Dieu nous donne les stratégies pour faire son œuvre. C'est lui qui va le faire au demeurant. Mais c'est à nous d'utiliser, eh bien, les stratégies, mais parmi lesquelles marcher selon l'esprit. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Un troisième moyen, l'oratoire, peuple du Seigneur, pour demeurer dans la pureté, eh bien, c'est de demeurer dans la prière. Pour demeurer dans la volonté du Seigneur, frères et sœurs, pour comprendre la parole de notre Dieu, il nous faut rester près de notre Dieu dans la prière. Plus nous restons dans la prière, plus nous allons connaître Dieu. Plus Dieu va nous donner des révélations. Je dis toujours aux gens de la classe de baptême, là, cette année ou ailleurs, à d'autres places où j'ai enseigné, eh bien, la meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de vivre avec lui. Mais c'est vrai pour Dieu aussi. Dieu est personnel. Dieu est esprit, mais Dieu est personnel. Pour connaître Dieu, il faut demeurer en Dieu. Il faut rester collé sur Dieu. Il faut rester près de Dieu. C'est la même chose pour les personnes humaines. Mais on demeure auprès de Dieu. Quand? Puisque l'esprit, on ne le voit pas. Mais alors, comment on fait pour demeurer auprès de Dieu? Comment on fait pour rester collé sur Dieu? Mais en accédant à son trône dans la prière, en priant, en lisant sa parole révélée, la parole de Dieu vient de Dieu. Alors, Je crois que ceux qui prennent ces moyens-là, c'est rare qu'ils ne grandissent pas dans la sanctification, dans la sainteté, dans la consécration, dans la pureté. C'est rare. Ils peuvent être malades. Ils peuvent connaître des pertes. Il y en a, ils peuvent être sans travail, le cas échéant. Ils peuvent connaître la solitude. Ils peuvent connaître l'abandon. Ça arrive. Mais ça n'a rien à voir avec leur maturité spirituelle, leur croissance spirituelle, leur développement spirituel, leur progrès spirituel. Ça n'a rien à voir. Les épreuves de la vie n'ont rien à voir, au contraire. Au contraire, ils y contribuent, le cas échéant, si Dieu veut passer par ce chemin-là. Le fait est que Dieu nous donne l'Église, la communion, la Bible, la prière, pour rester collés sur lui, priant qu'il nous fasse la grâce. Résultat, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Résultat de la pureté de cœur à la conversion, parce que, toujours le verset 8, ils verront Dieu. Oh, ils verront Dieu. Il y a une bénédiction qui est réservée à ceux qui ont le cœur pur, c'est que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Je vous ai déjà dit, verront Dieu ne signifie pas que maintenant ils ne voient pas Dieu. Je vous le dis tout de suite si je n'ai pas le temps de terminer. Moi qui voulais terminer le tour aujourd'hui, voilà que j'ai passé tout le temps au verset 8. Ce n'est pas bien grave. Nous y reviendrons Dieu voulant. Si le Seigneur nous prête de vie, l'oratoire, peuple du Seigneur. Ils verront Dieu, ce n'est pas dans le ciel. Bien sûr, ça arrivera dans la perfection des choses, dans le ciel. Mais dès maintenant, tu vois Dieu. Dès maintenant, je vois Dieu. Je le vois à l'œuvre dans ma vie. Je vois Dieu au sens spirituel du terme. Verront Dieu signifie voir Dieu continuellement. C'est le vrai sens du terme ici. Ça aussi, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça ne vient pas de moi. Le temps du verbe qui est utilisé ici, c'est ce que ça veut dire. Ils verront Dieu continuellement. Et le temps du verbe dit aussi que ce sont ceux-là seulement qui verront Dieu. Amen. Ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux-là qui verront Dieu. Les enfants du royaume de Dieu, ce sont ceux-là qui verront Dieu et le royaume de Dieu. Ce sont ceux-là qui n'auront pas au royaume de Dieu, qui ont pas et qui n'auront pas au royaume de Dieu, mais ils verront le roi du royaume. Le roi ne saurait être absent de son royaume, que ce soit maintenant et éternellement. La connaissance intime de Dieu et la communion avec Dieu sont réservées à ceux dont le cœur est régénéré. Gloire à Dieu. C'est lorsque le cœur d'un homme ou d'une femme est purifié à la conversion qu'il peut espérer commencer à vivre dans la présence de Dieu. Quand tu pries et que Dieu te répond, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, mais tu vois Dieu. Tu vois Dieu. Tu n'as pas vu un vieux monsieur aux barbes blanches, moustachu, blanchi, aux cheveux longs et blanchis. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Comme déjà, votre salut, c'est le résultat, c'est l'œuvre de Dieu. Mais quand tu regardes ton salut, tu vois Dieu. Quand tu vois ton salut, ton cœur purifié, c'est Dieu que tu vois. Béni soit l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, les gens avaient toujours le désir de voir Dieu. Ça revient souvent, oui, dans l'Écriture. Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est la gloire de Dieu, oui, qu'il a vu quand il dit, mon œil t'a vu. C'est la réhabilitation, la restauration, la réfection, le rafistolement de sa vue, de sa vie qu'il a vue, oui, quand il dit qu'il a vu Dieu. C'est l'œuvre de Dieu dans sa vie, oui, qu'il a vu. Quand il dit mon œil t'a vu, mais maintenant mon œil t'a vu. Gloire à l'Éternel. Je vous dis, tu verras Dieu. David dira la même chose pour vous montrer le désir des serviteurs de l'Ancien Testament de voir Dieu. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai devant la face de Dieu? On aurait pu passer beaucoup d'autres serviteurs encore qui diraient à peu près la même chose, en d'autres termes, dans d'autres mots. Mais toutes ces expressions expriment un seul et même désir de voir Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Dieu dans la mesure où nous sommes en relation avec lui. Il habite dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit de Dieu habite dans nos cœurs, et Jésus habite dans nos cœurs et Dieu habite dans nos cœurs. Ils ne sont pas séparés. Quand le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Quand il habite en nous, mais c'est la plénitude de la Trinité qui habite en nous. Donc, nous voyons plus que cela, nous voyons plus que Dieu. Ou alors, nous faisons plus que le voir, puisque le royaume est en nous. Gloire à Dieu. Et frères et sœurs, finalement, pour les enfants de Dieu, il y aura un jour une pureté ultime. Je termine avec ça. Il y aura une pureté ultime. J'aime terminer comme ça. Ça peut être redondant, mais il n'y a aucun mal à être redondant sur la vérité sacrée. Tu vois cette pureté-là dont je viens de parler? Je viens de vous dire que parfois cette pureté peut se retrouver, être mise à mal. Parce que nous sommes dans un monde de péché. Nous sommes environnés de corruption, de péché. Cette pureté que Dieu a opérée peut être mise à mal. Heureusement, il fait la provision si nous confessons nos péchés pour nous purifier de toute iniquité. Dieu merci. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais il y a plus que cela. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, nous serons dans un environnement. Nous serons dans un monde purifié. Les sources d'eau seront purifiées. La terre sera purifiée. Les arbres, les fruits que nous mangerons seront purifiés. Tout sera purifié dans cette cité-là. Dans la nouvelle Jérusalem, nous ne dirons pas, oui, nous nous battons, mais autour de nous, il y a du péché. Non, ce sera terminé. Notre pureté ne pourra pas faire face à de l'impureté sous aucune forme dans son environnement. Et alors, notre pureté rentrera dans sa phase absolue, dans sa phase imperturbable, et cela éternel. Nous avons vu, vous et moi, que rien de souillé ne rentrera pas là où nous nous dirigeons dans la Nouvelle Jérusalem. Ce sera fini que notre pureté puisse être souillée une fois de temps en temps par l'impureté. Non. Et cette fois-ci, nous n'aurons pas besoin de faire aucun effort. Nous allons justement rentrer dans cet état-là par la puissance de Dieu, selon ses promesses, selon sa fidélité. Ce sera la pureté perfectionnée, la pureté parfaite, la pureté absolue que les rachetés, les enfants du royaume, le peuple du royaume, ils pourront posséder quand ils seront glorifiés dans la présence éternelle de leur Dieu. Frères et sœurs, telle est notre espérance. Telle est mon espérance, telle est votre espérance. Il n'y aura plus de tomber et lever. Nous serons debout éternellement dans une vie de sainteté, de pureté, frères et sœurs. En ce temps-là, tous les péchés seront effacés, détruits pour toujours. Le générateur du péché, le roi du royaume des ténèbres, sera exterminé. Il sera lié pendant les 1000 ans, mais cette fois, il sera exterminé. Et nous serons dans la pureté totale en permanence. Et non parce que nous serons semblables à lui. Et nous le verrons aussi. Ah! Nous le verrons aussi tel qu'il est. Selon 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Dans cet état absolu de pureté, nous le verrons tel qu'il est. Hein? Nous le verrons absolument aussi. Gloire à Dieu. Telle est notre espérance. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, frères et sœurs. Frère Edia, tu peux reprendre l'antenne, s'il te plaît.